Le journal des idées, Jacques Munier.
Max Weber liait l'esprit du capitalisme à l'éthique protestante dans Les marchands et le temple, publié chez Albin Michel. Le médiéviste italien Giacomo Todeschini fait remonter son origine à la constitution de l'Église comme puissance temporelle. Il en parle dans les pages idées de Marianne. Au Moyen-Âge, des théologiens ont produit un lexique et des concepts qui ont ensuite été réemployés par les économistes modernes, résume-t-il. La circulation de l'argent, sa productivité, la notion de croissance du marché ont donc été inventés dès cette époque et thématisés en vue de justifier la mainmise du pouvoir ecclésiastique sur l'économie réelle. C'est ainsi qu'un franciscain de la fin du XIIIe siècle explique que si quelqu'un prête de l'argent qu'il avait l'intention d'investir, cet argent possède alors une valeur supérieure à sa valeur numérique. Il est donc légitime, selon lui, que l'endetté rembourse des intérêts en plus de la somme prêtée. C'est d'ailleurs à cette époque, marquée par une financiarisation de la vie économique, que se met en place le mécanisme de la dette publique qui repose sur le principe d'un État créditeur du privé, ainsi que celui concomitant de la vente de rentes publiques qui participe à la naissance d'une vie bancaire. Le fond de l'affaire, comme le rappelle Thomas Piketty dans sa préface à l'ouvrage, c'est que l'Église catholique, organisation inséparablement spirituelle et possédante, doit assurer la pérennité de ses biens et investissements pour mener à bien son projet de structuration de la société. La question se serait posée à partir du moment où les familles de riches romains épousent la nouvelle foi et commencent à accaparer au sein de l'Église les positions dominantes en tant qu'évêques et théologiens chrétiens à la fin du IVe et au cours du Ve siècle. Il faut alors, dans une société devenue entièrement chrétienne et où l'Église commence à accumuler de grandes richesses, penser les conditions d'une propriété et d'une économie chrétienne, ce qui a également des conséquences sociétales. L'économiste cite les travaux de l'anthropologue Jacques Goudy, qui a montré que les particularités de l'Europe en matière de structure familiale provenaient de l'attitude de l'Église face à la richesse, notamment les normes visant à maximiser les dons, stigmatisation du remariage des veuves ou des adoptions, contrairement aux règles romaines qui les encourageaient pour favoriser la circulation des biens, interdiction des mariages entre cousins pour limiter la capacité des groupes familiaux à concentrer leur contrôle sur les propriétés, une stratégie couronnée de succès puisque l'Église s'est retrouvée grâce aux dons de ses fidèles et pas seulement des veuves réputées généreuses et à sa solide organisation juridique et économique, à détenir pendant plus d'un millénaire une part considérable des biens et notamment des propriétés terriennes, jusqu'à un tiers d'entre elles, voire davantage. C'est ce qui lui a permis aussi d'entretenir une importante classe cléricale et de financer certains services sociaux, hospitaliers et éducatifs notamment. Dès cette époque, on voit s'élever des mises en garde contre la tentation facile de la finance à s'auto-entretenir et se développer au détriment de l'économie réelle. La dernière livraison de la revue Socio-Anthropologie est consacrée au comparatisme en matière d'histoire des religions. Au sommaire, un grand entretien avec Charles Malamud, spécialiste de l'hindouisme et des Védas, qui s'était penché sur le concept de dette avec des sinologues. Comparer les sémantiques et les représentations dans le temps ou dans l'espace de différentes cultures provoque un effet garanti de dépaysement de nos conceptions, qui projettent en retour un éclairage édifiant sur leurs usages, même contemporains. Dans ce numéro, Carlo Ginzburg s'attache à l'analyse d'un point de traduction étudié par Garcilaso de la Vega, l'auteur de la première histoire du continent amérindien et fils d'un conquistador espagnol et d'une princesse inca. Il s'agit du terme huaca, qui signifie en langue quechua idole, mais aussi événement extraordinaire et selon la manière dont il est prononcé, pleurer. La Vega, qui s'oppose à l'interprétation dominante selon laquelle l'idolâtrie est la religion des populations andines, s'emploie à dénoncer le fait que les Espagnols n'ont aucun égard à cette différence de prononciation parce qu'elle n'a rien de commun avec leur propre langue. Tous les langages sont égaux, conclut l'historien Carlo Ginzburg, mais certains le sont plus que d'autres. La revue Gradiva consacre sa dernière livraison à une autre forme de langage commun à l'expérience religieuse, celle des sens. Le spécialiste d'anthropologie médiévale, Jean-Claude Schmitt, y compare les régimes sensoriels des images dans différents cultes, des enluminures aux rituels télévisés des pentecôtistes. Comme en économie, la différence avec le monde contemporain tient à ce que la religion, autrefois complètement intégrée au système de représentation et de croyance, est aujourd'hui vécue comme une option individuelle et un segment particulier de la culture.